Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans votre carnet de région, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité régionale. Une émission produite et réalisée par des radios associatives et non commerciales du Languedoc-Roussillon. Au sommaire de cette édition, qui sera la dernière du semestre avant la pause estivale, il sera question, malgré l'arrivée des vacances scolaires, d'éducation avec deux sujets. L'un consacré à la scolarisation des enfants roms à Montpellier, le second à la fin des IUFM. Il sera également question dans ce carnet de région de la colère des élus du département de l'Aude vis-à-vis du gouvernement Hérault. Nous refermerons enfin ce carnet en nous rendant dans le Gard où le futur du centre de développement chorégraphique organisateur du festival Uzès Danse est devenu très incertain.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est à une conférence de presse un peu particulière que furent invités nos confrères héraultais, car organisés dans la rue pour défendre les Roms. C'était jeudi matin à Montpellier, place du Marché aux Fleurs, devant la préfecture de l'Hérault, dans le but de demander au préfet d'appliquer une circulaire concernant les enfants roms et leur scolarisation, ou plutôt l'absence de scolarisation. À cette occasion, l'avocate Sophie Mazas, présidente de la Ligue des droits de l'homme à Montpellier, a donné lecture d'une lettre ouverte à destination du gouvernement français.
Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur, les organisations signataires sollicitent auprès de vous l'application de la circulaire du 26 août 2012 relative aux Roms et de l'obligation de scolarisation que refuse de mettre en œuvre le préfet de l'État, monsieur Bousquet de Florian, préfet de l'Hérault et préfet de région, au motif de l'absence de caractère normatif d'une circulaire. Cette circulaire prévoit que les associations susceptibles d'apporter un concours de toute nature dans l'accompagnement des personnes soient associées au comité de suivi. Depuis bientôt 3 ans, le collectif de soutien aux Roms accompagne 600 à 800 personnes et a entrepris notamment une action en faveur de la scolarisation. Sur les quelques 200 enfants soumis à l'obligation scolaire, seuls 70 sont effectivement inscrits et 30 enfants sont effectivement assidus. Mais le collectif ne peut pallier la carence de l'État. Les organisations signataires attirent votre attention sur le refus express du préfet de l'Hérault d'appliquer le principe de l'obligation scolaire et de coordonner l'action des services de l'État et des collectivités territoriales. Le refus express du préfet de l'Hérault d'intégrer les associations du collectif de soutien aux Roms dans le comité de suivi.
À l'issue de cette lecture publique, Sophie Mazas, présidente de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier, signataire de la lettre et porte-parole de l'ensemble des organisations, a répondu à Robert Martin de Radio Pays d'Hérault.
Donc on pousse des gamins à devenir des délinquants et après on sera content de les mettre en prison en disant « voilà, ce sont des Roms, ils sont délinquants ». Mais si on ne remplit pas nos obligations républicaines, eh ben on ne pourra pas leur reprocher. Moi je suis désolée, un enfant c'est un enfant. Et on ne peut pas avoir un préfet qui nous dit « j'applique pas la circulaire parce qu'il y en a trop, parce qu'il y a 40 000 pages et j'ai pas le temps de les lire et ça n'a pas de valeur normative ». Ce n'est pas possible. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une action collective d'énormément d'organisations politiques et associatives. Parce que s'il y a ce consensus, c'est bien parce qu'on a un vrai problème. Si vous avez les partis de gouvernement qui sont présents dans cette coalition, en dehors des partis de gauche et d'extrême gauche comme le NPA, parce que de manière fondamentale ils sont sur cette lutte, mais si vous avez les syndicats, notamment des syndicats qui regroupent des syndicats d'enseignants, si vous avez les parents d'élèves, si vous avez des associations comme Médecins du Monde, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, ADT Carmonde, c'est bien parce qu'il y a un vrai problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, le préfet ne nous reçoit pas, c'est pas une surprise, mais quand même, à un moment donné, sur des questions comme ça, le consensus républicain existe. Il a pris la forme d'une circulaire et nous, on demande juste que ce soit appliqué. Voilà.
Quant au préfet de l'Hérault, qui a refusé de recevoir les manifestants, sa réponse est venue par voie de communiqué. Ouvrez les guillemets. Cette mise en cause d'une stupéfiante mauvaise foi ne peut qu'être contestée avec la plus grande rigueur. En matière de scolarisation, le préfet rappelle que si le principe général d'obligation scolaire s'applique à tous, sa mise en œuvre repose au premier chef sur les familles. C'était un sujet proposé par Radio Pays d'Hérault. Grosse surprise en fin de semaine dernière pour les élus audois mobilisés en faveur de la future ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan. Des fuites dans la presse sur le rapport Duron, publié cette semaine, affirmaient le report du projet après 2030. Dans l'Aude, c'est une gare TGV qui devait être construite à l'horizon 2020 près de Narbonne. La réponse des élus ne s'est pas fait attendre. Ils ont décidé sur le champ de ne plus recevoir de ministre et la première à faire les frais de cette grogne fut Delphine Batho, ministre de l'écologie.
La ministre de l'écologie, Delphine Batho, n'a finalement pas été reçue dans l'Aude vendredi. Elle devait participer à un débat au Conseil général, mais tout a été annulé en raison de fuites dans la presse sur le rapport Duron qui doit être présenté cette semaine. Celui-ci préconiserait le report après 2030 du projet de ligne à grande vitesse. Celui-ci prévoit, je vous le rappelle, la construction d'une gare TGV à Montredon-Corbières. Cette probabilité a surpris les élus du département qui ont voulu marquer le coup. Les explications du président du Conseil général, André Viola.
Pour alerter le gouvernement, nous avons pris cette décision la semaine dernière de ne pas participer au débat sur la transition énergétique avec la ministre Delphine Batho.
Vous avez été surpris des préconisations supposées de ce rapport ?
Surpris, oui, parce que jusque-là, lorsque nous avons rencontré la commission Duron, lorsque nous avons rencontré le cabinet du ministre des Transports, j'ai envie de dire que tous les voyants étaient au vert. On nous avait opposé des critères objectifs de classification. Le fait que les collectivités territoriales soient unies derrière le projet, c'est le cas en Languedoc-Roussillon. Qu'elles participent financièrement, c'est le cas également. Et enfin, on nous avait dit qu'une priorité serait donnée au projet transfrontalier. C'est un projet transfrontalier par excellence, puisque c'est derrière toute la Catalogne et l'Espagne qui est concernée. Donc on a été surpris, et nous, ce qu'on voudrait savoir, si ces fuites sont réelles, et bon, mais si c'était... je dirais un tuyau creusé, dont date, et si c'était juste, on veut savoir... Qui remplit ces critères mieux que nous.
Est-ce que les liens que vous avez avec le gouvernement peuvent vous enlever des doutes ? Qu'est-ce qu'on vous dit en haut lieu ?
Écoutez, on dit que d'abord il faut attendre la commission Duron, on nous dit qu'il faut faire attention à ce qui s'est propagé dans la presse, donc j'espère que nos doutes seront levés, puisque c'est jeudi à 15h que le rapport sera rendu public. Après, on savait évidemment que l'on soit dans le rapport Duron ou pas, de toute manière, in fine, c'est le gouvernement qui décide. Donc, il faut voir dans la décision que nous avons prise avec les parlementaires audois et Christian Bourquin une alerte pour dire au gouvernement, pour nous, ce dossier est vraiment capital pour le développement de notre région et de notre département.
Dernière question, André Viola, est-ce qu'aujourd'hui, là, au moment où on parle, vous sentez le gouvernement de votre côté, du côté du département ?
Écoutez, à aujourd'hui, le gouvernement attend ce rapport pour trancher, pour prendre les décisions. On nous les annonce au mois de juillet ou au plus tard au mois de septembre, et au vu de ce qui est sorti récemment, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire à cette heure-ci vers quel côté la balance va pencher.
C'était un reportage d'Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gare.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Patrick Demougin est le directeur de l'IEFM de Montpellier, Institut universitaire de formation des maîtres. Le 20 juin a eu lieu la dernière conférence des 32 directeurs d'IUFM, lesquels furent créés en 1991 pour former tous les enseignants de l'éducation nationale, de l'école, du collège et du lycée. Patrick Demougin, au micro de Liliane Drey, donne son sentiment sur la fermeture des IUFM.
L'IUFM réunit à Montpellier, comme il le fait régulièrement, l'ensemble des directeurs, des 32 directeurs qui exercent en France et dans les territoires d'outre-mer, qui exercent leur responsabilité de directeur d'IUFM. Nous nous réunissons à Montpellier pour la dernière conférence, puisque le 31 août, les IUFM cessent de fonctionner, et ce sont les écoles supérieures du professorat et de l'éducation qui prendront le relais dès le 1er septembre. Et à cette occasion, nous avons voulu faire un événement, mais qui n'est pas, encore une fois, commémoratif ou nostalgique. Nous avons voulu en faire un événement en invitant tous les anciens présidents de la conférence des directeurs d'IUFM. Les IUFM ont 22 ans. Il y a eu 8 présidents avant moi-même de cette conférence. Et donc, nous sommes les 9 présidents qui ont présidé la conférence des directeurs d'IUFM. Et nous avons invité aussi donc d'anciens directeurs qui n'étaient pas présidents de la conférence, mais qui étaient directeurs d'IUFM. Et nous avons des personnalités de grande qualité.
Alors, quoi de changé pour les ex-futurs IUFM, désormais remplacés par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation?
La formation des enseignants demandait, je dirais, une nouvelle approche, une approche professionnelle beaucoup plus affirmée, une transformation beaucoup plus claire aussi de la position de la formation dans l'université. Donc les exigences sont fortes et dans ces cas-là, on ne change pas, je dirais, fortement un programme si on ne change pas aussi la structure qui le porte. Donc les IUFM devaient, d'une manière ou d'une autre, certainement se reconstruire ailleurs et autrement, dans une nouvelle structure de formation. On sait qu'il y a la refondation de l'école, que les enjeux sont extrêmement forts pour former des professeurs de haut niveau, pour l'ensemble de la population, pour mettre en échec l'échec scolaire. Hein, donc ce sont des questions fortes, vives. Les IUFM réglaient, je dirais, pour une part ces problèmes-là en formant des professeurs de qualité. Il n'y avait pas de questions difficiles là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut probablement un plan plus ambitieux. Alors les écoles supérieures qui vont s'installer au 1er septembre devraient être équipées pour passer à cette vitesse supérieure. Le feront-elles totalement? Les IUFM doivent-ils être totalement oubliés dans cette nouvelle logique? Je ne le pense pas. Je crois qu'on sera aussi dans une continuité et par la force des choses, les équipes qui aujourd'hui travaillent dans l'IUFM seront très très impliquées dans l'école supérieure demain et il y aura là une continuité humaine, une continuité de compétences qui va de soi, je dirais.
Ce reportage nous était proposé par Liliane Drey de Radio Aviva. La semaine dernière, se sont refermées les portes de la 18e édition du festival Uzès Danse. Ce festival consacré à la création contemporaine, inventif et exigeant, ouvert à l'Europe et aux chorégraphes régionaux, se clôture toutefois sur une interrogation. Y aura-t-il une 19e édition ? En effet, Liliane Schauss, la directrice d'Uzès Danse, exprime sa déception de ne pouvoir investir les locaux désaffectés de l'hôpital psychiatrique d'Uzès, le Mascareron, pour y créer un lieu de fabrique. Une déconvenue qui intervient après des années d'élaboration de ce projet. Mais cette déception n'affecterait en rien l'avenir du festival, selon Liliane Schauss, bien décidée à faire vivre et le centre de développement chorégraphique et le festival.
Eh bien, nous allons travailler à la fin du festival pour essayer de trouver effectivement un endroit pour avoir ce lieu de fabrique dont on a besoin et qui est important pour nous et pour les artistes aussi. Pour l'instant, on ne sait pas, on avance, on a rencontré des personnes sur le territoire, mais on ne sait pas encore comment tout ça va s'articuler, donc c'est en réflexion et en discussion.
Vous n'êtes pas sans savoir que le bruit court, que vous alliez peut-être quitter Uzès ?
Rien n'est fait, je pense qu'on ne peut pas dire ça parce qu'on n'a pas envie non plus de quitter Uzès. Je pense qu'il faut vraiment se laisser le temps de bien articuler les choses, de bien réfléchir. Ça peut être un déploiement sur le territoire qui sera différent avec toujours une accroche sur Uzès et un lieu peut-être ailleurs, ça oui. Puisque ici sur Uzès ça n'a pas été possible, mais c'est un peu tôt pour faire des déclarations. Donc je pense que les politiques effectivement ça fait partie de leur rôle et c'est plutôt en même temps rassurant parce qu'on devient un enjeu politique. Donc ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Et donc là, maintenant, je crois qu'il faut vraiment se mettre au travail, réfléchir avec les différents lieux, les différentes aussi collectivités qui seraient prêtes à travailler avec nous et voir comment ça peut s'articuler en continuant aussi une articulation sur Uzès. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur tout ça.
Alors, vous nous assurez qu'il y aura un 19e.
Le festival continue. Après, sous quelle forme, je ne sais pas encore. Effectivement, on est dans une période de flou qui est un peu compliquée pour nous, c'est certain. Mais le festival continuera à exister sous une forme peut-être différente. J'ai parlé tout à l'heure de métamorphose et de mutation. Et je pense qu'on est là-dedans et que il faut continuer à avancer et puis le festival continuera à exister.
Un regret et une détermination qui n'en sont pas moins vifs chez Alain Blachère, le directeur de l'hôpital d'Uzès, bien obligé de s'incliner devant la décision de son administration centrale, l'Agence régionale de santé.
En ce qui concerne la coopération, le travail que nous avons mené, en effet c'est un travail que nous avons mené avec Uzès Danse depuis 8 ans, Nous-mêmes, nous avons mis nos forces vives un peu en appui sur cette coopération qui s'est traduite donc par des réalisations avec les patients dans le cadre de Culture à l'hôpital, qui est un programme qui est financé par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, la DRAC, et puis la troisième partie est apportée par l'hôpital. Donc c'est un cofinancement. Alors évidemment, cette expérience, on voulait la prolonger en implantant dans l'hôpital, un lieu privilégié de l'hôpital, c'est-à-dire à l'entrée de l'hôpital, le centre de développement chorégraphique. Un pavillon a été choisi, il était toujours mis à disposition en effet du projet. Et dans ce projet, l'hôpital donc d'Uzès mettait à peu près 20%, finançait à 20% la réhabilitation du bâtiment. Et sous la forme grosso modo d'une participation de 400 000 euros. Et puis donc l'agence régionale de l'hospitalisation qui nous attribue les budgets, qui gère les budgets de la sécurité sociale. Devant les difficultés qui caractérisent la région et même l'Hexagone en matière de santé, face à des hôpitaux qui sont en grosse difficulté, a préféré mobiliser ces enveloppes sur des affectations donc de crédits purement sanitaires. Ce qui fait que finalement, on a essayé de ce projet, tout en continuant à mettre à disposition donc, le bâtiment et le terrain, on a essayé de trouver un système de maîtrise d'ouvrage délégué. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, c'est 400 000, il manque dans le plan de financement. Et voilà le fin mot de l'affaire, il n'y a pas de secret. Donc, nous sommes désolés, en effet, de ne pas pouvoir avoir implanté ce centre de développement chorégraphique sur Uzès.
C'était un sujet de Radio Grille Ouverte qui aura également assuré la rédaction en chef de ce carnet de région pour tout le mois de juin. Ce carnet de région se referme pour 2 mois, soit le temps des vacances. Carnet de région est une émission produite et réalisée par des radios associatives et non commerciales du Languedoc-Roussillon. Merci aux radios qui en ont permis la réalisation et la diffusion, et merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous dès la première semaine de septembre pour une nouvelle saison de ce carnet de région. Alors, au revoir à tous et bonnes vacances.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.